Gilles Bogaert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier de Pernod Ricard. On va revenir avec vous sur votre exercice 2011-2012 et puis bien sûr sur les perspectives. Avant de commencer, peut-être un mot, effectivement, après le décès de Patrick Ricard, qui a dirigé le groupe pendant plus de 30 ans. La famille Ricard a pris un certain nombre de décisions. Quelles sont ces décisions, je dirais, pour le management du groupe ?
Oui, c'est vrai que ce décès, qui était un choc, bien sûr, pour tout le monde dans le groupe, qui est récent, qui a moins de 2 semaines. Bon, la famille et le conseil ont réagi très vite et donc ont proposé une nouvelle gouvernance qui a été communiquée aujourd'hui. Je pense que d'abord, ça réaffirme l'attachement, l'implication très forte de la famille auprès du groupe, avec la nomination de Danièle Ricard comme présidente du conseil d'administration et également la promotion d'Alexandre Ricard comme directeur général délégué. Et de ce côté-là, c'est en parfaite cohérence, en parfaite continuité avec la gouvernance que nous avions jusqu'alors. Et en ce qui concerne l'équipe dirigeante du groupe, là aussi, pas de changements fondamentaux. C'est la même équipe dirigée par Pierre Pringuet, le bureau exécutif à la même composition. Alexandre Ricard était déjà dans cette équipe, il était déjà à la tête des réseaux de distribution. Il a eu cette promotion comme directeur général délégué, bon, ce qui très clairement montre la volonté de la part du Conseil de le préparer à pouvoir prendre les rênes du groupe en 2015.
Voilà pour ce sujet important pour un groupe familial, hein, bien sûr, d'être capable de réagir à ce type d'événements. On revient à présent sur les résultats avec vous et sur des résultats annuels qui sont, vous signez dans le communiqué, record. La meilleure année, vous dites, depuis 2007-2008.
Depuis la crise de 2008,
pratiquement. Absolument. Comment on en est arrivé là, quelque part, puisqu'on pourrait dire qu'il y en a eu d'autres crises. La crise n'est pas terminée.
Non, d'ailleurs, la situation reste toujours incertaine, mais je pense qu'on voit que ce qui a fait notre succès ces dernières années, ça continue à délivrer ses fruits. Effectivement, on a délivré une croissance de nos ventes, croissance interne de 8%. C'était 7% l'année dernière, donc on a accéléré notre croissance. Notre croissance du résultat opérationnel courant est de 9%. On avait donné un objectif proche de 8%, donc on a fait mieux que notre objectif. Je dirais qu'on a gardé globalement la tendance très favorable sur nos marques premium, le top 14 qui a cru de 10% comme l'année précédente. Et par géographie, l'Asie reste du monde reste le principal moteur de la croissance avec 15%. On a eu une accélération de la croissance en Amérique, notamment aux États-Unis. Et en Europe, la situation reste très contrastée. On a une accélération en Europe de l'Est, notamment en Russie. Et à l'Ouest, on a globalement limité la baisse à 1%. C'est plus compliqué au Sud qu'au Nord. Mais je dirais que globalement, c'est une très bonne année. Et l'accélération en Europe de l'Est et aux États-Unis nous a permis globalement d'accélérer la croissance du groupe.
C'est l'occasion hein, pour nous aussi de parler des produits du groupe. Vous parliez du top 14. Alors si Pernod Ricard, ça évoque encore pour beaucoup le pastis, on va parler de whisky, on va parler de vodka, on va parler de cognac, on va parler de beaucoup d'autres produits. Et si l'anis, effectivement, c'est le produit phare ou le produit historique, ce n'est plus le produit majeur du groupe.
Bien sûr, une marque historique emblématique pour le groupe. Aujourd'hui, les principales activités du groupe, c'est le scotch. C'est 30% du chiffre d'affaires du groupe, à peu près la même proportion dans les profits, qui est une activité en pleine croissance. Il y a une croissance de l'ordre de 9% sur l'ensemble des whiskies, y compris d'ailleurs les whiskies irlandais qui regroupent Jameson. Donc, scotch et whisky irlandais, globalement, ça a été un levier très fort de notre croissance. Martell, bien sûr, notre marque de cognac, a continué une croissance très forte, notamment en Asie chinoise. Bon, et par ailleurs, on a globalement eu des bonnes performances sur la quasi-totalité des marques du top 14. Top 14, d'ailleurs, où on a eu une année record en termes de volume. On s'est approché des 50 millions de caisses, ce qui n'avait jamais été atteint dans le passé.
Oui, si on fait cette parenthèse sur le pastis, c'est effectivement, on se souvient de l'augmentation des taxes qui avait été décidée. Donc ça a eu un impact, mais que le groupe a su gérer.
Oui, comme prévu, on a depuis le début de l'année un marché difficile en France. Il est en baisse de 2% depuis le début janvier. L'anis est davantage touché, hein, l'anis est à moins 6. La hausse des droits était forte, hein, c'était la plus forte depuis 1994, une hausse de 14% des taxes. Et donc on s'attend à avoir globalement jusqu'à fin décembre une année difficile avec une baisse de notre activité en France. Bon, néanmoins, comme vous l'avez dit, On a suffisamment de réservoirs de croissance partout dans le monde pour être capable de compenser une difficulté sur ce marché, bon, dont on espère qu'elle ne durera qu'une année.
Alors on voit effectivement la croissance sur les pays émergents. On voit aussi à l'inverse l'Europe du Sud qui souffre aussi. On pense à l'Espagne. Et on a eu aussi sur le Royaume-Uni peut-être une baisse.
Globalement, oui. Je dirais que bon, l'Europe du Sud, le marché des spiritueux et notre activité sont relativement réduites en Grèce, au Portugal ou en Italie. Le principal marché d'Europe du Sud important pour les spiritueux, c'est l'Espagne. On n'a pas vu d'amélioration en Espagne. On est sur une tendance à moins 4, moins 5% depuis 4 ans finalement en Espagne. Donc il n'y a pas eu de changement de tendance. Bon, là aussi, c'est quelque chose qu'on était capable de compenser. Et j'irais même dans ce marché difficile, notamment pour le scotch, on a des marques qui ont eu de très belles performances. C'est le cas en particulier de Beefeater, qui a cru de 6% en Espagne. Et on investit également pour saisir des nouvelles poches de croissance, comme par exemple en lançant Ritual d'Havana Club pour saisir l'occasion de consommation rhum brun. Donc dans ces marchés-là, notre enjeu, c'est de défendre nos sources de profit, mais aussi de saisir les poches de croissance qu'il peut y avoir.
Alors, on disait peut-être pour ceux qui découvrent le groupe Pernod Ricard, il y a aussi des vins premium que vous vendez. Comment s'est passé cette année de 2011-2012 pour vous ?
Je dirais que ça fait déjà plusieurs années qu'on a une stratégie également de premiumisation sur les vins, on appelle stratégie valeur, qui consiste en fait à nous focaliser sur un nombre limité de marques d'origines différentes. On a quatre marques, Jacob's Creek pour l'Australie, Brancott Estate pour la Nouvelle-Zélande, Campo Viejo pour l'Espagne et Grafinha pour l'Argentine. Et on essaie de monter en gamme. On n'a pas une approche volume, on a une approche prix et valeur. On essaie aussi de limiter au maximum la base d'actifs. Et je dirais que cette stratégie commence très clairement à payer, puisqu'on a globalement eu des volumes stables, un chiffre d'affaires en progression et une contribution d'activité qui a été à deux chiffres. Bon, ce qui montre que bien gérer cette activité peut très clairement délivrer de la valeur. Je pense que on est bien parti. Il y avait des marchés difficiles comme le Royaume-Uni qui restent difficiles, mais désormais on est capable de les compenser avec de nouveaux relais de croissance, en particulier la Chine, où nos activités vins se développent rapidement et avec de bons niveaux de profit.
En conclusion, du côté des perspectives 2012-2013, alors bien sûr, vous évoquez comme d'autres le ralentissement économique, mais qu'est-ce qu'il devrait y avoir comme croissance pour le groupe ? Ça sera encore cette concentration sur les pays émergents ?
Alors, on ne donne pas d'objectifs quantitatifs à ce stade. On les donnera, comme à notre habitude, lors de la communication du chiffre d'affaires du premier trimestre, donc le 25 octobre. En ce qui concerne l'environnement macroéconomique, on note que au niveau mondial, la croissance va être plus faible que l'année précédente, hein, disons 3% contre 4%, tant dans les pays matures que dans les marchés émergents. Néanmoins, les grands moteurs de cette croissance vont rester les mêmes, et en particulier pour nous, les pays émergents, on anticipe toujours une forte croissance, on anticipe toujours une bonne croissance aux États-Unis et une situation qui restera compliquée en Europe de l'Ouest où la consommation va rester déprimée encore un certain temps.
Merci Gilles Bogaert d'avoir fait le point avec nous. On rappelle que vous êtes donc le directeur financier de Pernod Ricard.
Merci.